ceux qui parlaient, et notamment des apôtres. Et c'est probablement, hein, il y avait ce don de parler en langue, mais il y avait aussi ces dons de miracles. Et donc, il y avait véritablement cette autorité qui était conférée à ces personnes qui possédaient ces dons. Et c'est probablement ce que recherchaient les Corinthiens. Il existait également une contrefaçon du parler en langue chez les païens qui consistait à produire des sons inintelligibles dans un langage extatique que personne ne comprenait. Il est évident, d'après Paul ici, que si personne ne comprend ce que je dis, personne n'est édifié, que ce soit en langues étrangères ou que ce soit en charabia, peu importe, personne n'est édifié s'il n'y a personne qui traduit. Paul dit au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Alors c'est souvent une parole qui est utilisée pour dire « ben voilà, je m'édifie moi-même ». Mais si je m'édifie, dans la pensée de Paul, si je m'édifie moi-même, je ne le fais pas au milieu des frères, de l'assemblée. Si les autres ne me comprennent pas, ça ne les édifie pas, ça les perturbe. Mais moi je pense qu'avec d'autres commentateurs, que Paul est sarcastique ici. Comme il l'est un peu plus loin au verset 36. Les Corinthiens qui parlaient en langue sans traduction ne se souciaient pas d'être compris. Ils se souciaient de se donner en spectacle. Ils se souciaient d'être vus. Au fond, ils gonflaient leur ego. Ils édifiaient quoi ? Mais leur orgueil, simplement. Et c'est tout à fait à l'opposé de l'amour du chapitre 13. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt. Et tout à l'opposé aussi de l'objectif des dons spirituels. L'apôtre Paul a dit au chapitre 12, verset 7, que les dons étaient pour l'utilité commune. L'apôtre Pierre dit la même chose en 1 Pierre 4, 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est pour les autres. Néanmoins, verset 5, l'apôtre Paul ne veut pas que les chrétiens se méprennent et il ne veut pas que les chrétiens de Corinthe méprisent les dons, ni le parler en langue, ni aucun autre. Quand il dit qu'il voudrait que tous parlent en langue, il sait bien que c'est pas lui qui donne le don, c'est le Saint-Esprit qui le fait et il le fait comme il veut. Mais il leur dit en substance, si vous devez rechercher un don, alors que ce soit celui de prophétie, parce que celui de prophétie, il édifie l'Église. Il dit au verset 3 que le prophète parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Je ne crois pas que Paul cherche ici à donner une définition du ministère prophétique. Il semble plutôt qu'il présente les effets produits par le message. Lorsqu'il est communiqué dans une langue qui est comprise, le message est là pour édifier, exhorter, consoler. Que ce soit un prophète de l'Ancien Testament qui annonce une déportation ou un retour, voilà, il édifie, il console, il avertit. Que ce soit des révélations pendant le début de l'Église, alors que le canon du Nouveau Testament n'est pas achevé, que tout le Nouveau Testament n'est pas écrit. Si la personne parle par révélation, il est en train de consoler, d'encourager, d'édifier l'Église. Que ce soit aujourd'hui, après qu'on ait toute la révélation écrite, eh bien, qu'on expose la parole, qu'on annonce l'Évangile, qu'on enseigne les Écritures, à chaque fois, c'est pour édifier, consoler, encourager les frères et sœurs. Donc, la raison invoquée pour la supériorité du don de prophétie sur le don des langues, c'est vraiment l'édification. Et c'est ce qui doit caractériser les dons. Les dons sont pour l'édification. Maintenant, l'édification s'opère par la compréhension. Le canal de l'édification, c'est la compréhension intelligente de la parole de Dieu, de qui est Dieu et de quelle est son œuvre. Jamais Dieu, qui nous a équipés d'un cerveau, ne nous demandera de nous en défaire pour le suivre. Les Corinthiens pensaient que s'ils connaissaient le grand frisson, vous savez, une forte émotion là, dans un message ou dans une ressentie, peut-être qu'ils avaient des larmes ou peut-être quelque chose qui les bouleverse intérieurement. C'était nécessairement le Saint-Esprit qui parlait de la sorte, qui se manifestait. Et Paul dit ici, le canal véritablement spirituel est celui de la compréhension. Nous comprenons une vérité concernant Dieu, concernant son œuvre. Nous plaçons notre confiance et nous connaissons les justes émotions qui viennent avec. Il ne s'agit pas d'abandonner nos émotions. Les émotions, c'est Dieu qui nous les a données. Mais il faut qu'elles aient la bonne place. Si nous plaçons les émotions avant notre connaissance de Dieu, nous pouvons ressentir du désespoir alors que nous devrions ressentir une espérance. Nous pourrions ressentir de la sécurité alors que nous devrions craindre. Donc, nos émotions, elles ne sont pas un guide fiable. OK ? Deux exemples pour ça. Vous vous souvenez, en Luc chapitre 12, Jésus parle d'un homme qui se croit en sécurité parce qu'il a amassé tout un magot. Il ressent le repos, la sécurité, la satiété même, il a la joie, et il dit, mon âme, repose-toi, tout baigne, tout va bien. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et tout est bien, pour qui ce sera? Tes sentiments te trompent parce que tu n'as pas tenu compte de Dieu. Tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas prêt à le rencontrer. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il même dans l'abondance. Notre intelligence doit comprendre cela, cette vérité. L'argent n'offre pas une garantie contre la mort. Un autre exemple. En Jérémie, le prophète... Lamentation de Jérémie, le prophète Jérémie est abattu. Il a un ministère très difficile. Il a un ministère où il doit avertir de la déportation son peuple. Et le peuple ne se détourne pas de son péché, ne se revient pas à Dieu et il voit les fléaux s'abattre sur son peuple. C'est terrible pour lui. Il est moqué par son peuple quand il parle de Dieu. Alors il est vraiment abattu. Les circonstances qu'il connaît ont provoqué chez lui une émotion sombre, l'abattement, la détresse. Et puis à un moment, il s'arrête et il dit, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et à ce moment-là, il retrouve la paix, la sérénité. Donc, ce sont la compréhension de Dieu qui amène les bonnes, les justes émotions. Pas le contraire. Et donc, dans cette pensée, l'apôtre Paul, il veut que nos émotions viennent après notre compréhension de Dieu et de son œuvre. Nos émotions ne sont pas fiables pour nous guider. C'est pas parce que vous avez ressenti un frisson ou que vous avez versé une larme parce qu'il y a eu une prédication qui était émouvante. Si nous évaluons la spiritualité d'un message à l'émotion qu'il nous procure, on risque d'avoir un problème. Vous savez, moi, j'ai les larmes qui me montent assez rapidement. Hein. Alors, je peux facilement pleurer devant un film qui est complètement imaginaire, l'histoire n'est jamais arrivée, c'est peut-être même de la science-fiction, peu importe, moi je pleure. Et puis je peux ne pas pleurer devant le journal de 20h de Gilles Boulot, qui me décrit une situation catastrophique actuelle. Voyez-vous, les émotions ne sont pas fiables. Nos convictions doivent diriger nos pensées. La foi doit s'en emparer et alors nous exprimerons des bonnes émotions et nous engagerons notre volonté pour accomplir et agir en conséquence. Qu'est-ce qui vous édifie dans la prière ou dans les chants de l'assemblée? Est-ce que c'est l'intonation? Les larmes? Est-ce que c'est la mélodie? Non. c'est le sens des paroles, le sens des vérités qui sont exprimées, la révélation du caractère de Dieu, la révélation de son œuvre. Voilà ce qui vous soutient, voilà ce qui vous console, voilà ce qui vous encourage. Si c'est juste une émotion, l'instant où vous allez quitter les lieux, l'émotion va se dissiper. Que restera-t-il ? Rien. Si c'est une vérité que vous avez compris, que vous avez acceptée, vous allez partir avec. Et des mois et des années plus tard, la vérité vous soutiendra, vous portera, vous encouragera encore. Je ne veux pas dire que tout est simple à comprendre. Ce chapitre n'est pas simple à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que on doit s'efforcer de comprendre. Être spirituel, c'est chercher à comprendre, à connaître Dieu. Même s'il y a une dimension chez Dieu qui est infinie, qui est insaisissable, nous devons nous efforcer de le connaître. Et c'est en saisissant son caractère, en saisissant son œuvre et en l'appliquant à notre vie que nous allons vivre des vies justes. Toute façon erronée de vivre provient toujours d'une compréhension erronée ou d'une croyance erronée. D'où l'importance de comprendre la parole. Tout message est donc inutile s'il ne peut être compris, même s'il est vibrant, même s'il est exalté. C'est ce que Paul illustre au travers des instruments de musique, de la trompette, dans les versets 6 à 9. Une langue qui n'a pas de sens n'a aucune valeur. D'ailleurs, ça n'est pas une langue. Ce qui fait une langue, c'est qu'elle a une signification, au moins pour quelques personnes. Au verset 19, il dit même, dans l'Église, quand on est réunis en assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Comment nos frères diront-ils « Amen » à notre prière, à nos actions de grâce, s'ils n'en comprennent pas le sens? Le « Amen » que nous prononçons, c'est l'Amen qui fait que nous sommes unis les uns aux autres sur la base d'une vérité. Il faut que cette vérité soit acceptée, comprise. « Amen », ça signifie « qu'il en soit ainsi », quand on annonce les choses de Dieu. Les hommes ne se convertissent pas par des signes et des miracles, mais par l'Esprit et la parole. Les hommes ne se convertissent pas par des miracles ou par des signes. Ils se convertissent par la compréhension de l'Évangile. Vous souvenez de Luc 16? C'est l'histoire que Jésus raconte de l'homme riche et de Lazare. Et les deux meurent, Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham, bienheureux, consolé de tous ses maux, et puis Lazare est dans les tourments. Et Lazare dit à Abraham, « Abraham, fais ressusciter Lazare et envoie-le auprès de mes frères. J'ai 5 frères, je voudrais pas qu'ils viennent dans le lieu de tourment où je suis. » Et la réponse d'Abraham, c'est de dire, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Parce que ils ne se tourneront pas vers Dieu, même si un mort ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité. Et l'Israël, dans son majorité, témoin de cela, l'a rejeté. Ce qui nous convertit, ce qui nous sauve, c'est la compréhension de l'Évangile. Alors, le miracle, il peut éveiller mon âme. Il peut éveiller mon oreille, m'aider à porter attention à ce qui va être dit. Mais c'est la compréhension et la foi dans l'Évangile qui me sauve. Il faut que le message il soit exposé, qu'il soit expliqué et qu'il soit reçu et compris. Et puis, il faut que le Saint-Esprit œuvre en ouvrant l'intelligence et le cœur de la personne. Les dons miraculeux n'étaient pas nécessaires aux croyants, mais aux incroyants. Ils servaient à appuyer le témoignage des hommes qui annonçaient le message de l'Évangile. Mais c'est le message qui toujours sauve. Lorsque Jésus a guéri 10 lépreux, tous ont été guéris. Un seul est revenu et a été sauvé, celui qui a compris que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, venu pour payer pour ses offenses et qui le réconcilie avec le Père. Celui-là seul a été sauvé. Donc, l'édification s'opère dans la compréhension, par la compréhension de la parole, et aussi l'édification s'opère dans l'ordre. C'est ce qu'on voit dans les versets 36 à 35. Les Corinthiens, ils pensaient que l'improvisation et la spontanéité étaient nécessairement la manière d'opérer du Saint-Esprit. Si la chose était spontanée, ah, là on devait dire, ah, oui, là c'est pas préparé. Hein. Et du coup, personne ne se soumettait plus à personne. Chacun agissait comme bon lui semblait, ne voulant pas freiner l'action du Saint-Esprit. Si je dis, le Seigneur m'a dit de vous dire, là, vous êtes obligé de dire, bon, si c'est le Seigneur, on va l'écouter, quoi. Vous n'allez pas m'interrompre. Mais Paul rappelle au verset 33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Que l'Église est édifiée, qu'elle grandit spirituellement dans l'ordre. Et il donne donc des directives. Il dit, si parler en langue il y a, eh bien que deux ou trois maximum devaient parler, chacun son tour, et s'il y avait une interprétation, s'il n'y avait pas d'interprétation, eh bien qu'on se taise. Verset 28. Les prophètes eux-mêmes manquaient de maîtrise, semble-t-il. Chacun apportait sa contribution à son gré, comme et quand comme il voulait. Il rappelle au verset 32 que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire que je dois garder le contrôle. Je ne perds pas le contrôle de ce que je dis ou de quand je le dis. Et donc, il donne aussi des critères que deux ou trois maximum s'expriment, que les autres devaient examiner leurs paroles pour voir si c'était exact. Et chacun devait s'exprimer à son tour. Pas de chaos, pas de désordre. Dans notre Église, on s'efforce de prêcher d'une manière textuelle suivie. Prenant un livre, nous essayons d'en exposer tout le sens parce que nous croyons que l'auteur avait une intention et que Dieu développe une pensée et que l'on peut comprendre sa pensée. C'est pour ça que je suis obligé. C'est pour ça que je prêche ce chapitre 14. J'en aurais jamais eu envie. Mais parce que Dieu l'a placé là, je le prêche parce qu'il l'a placé là pour notre édification, pour notre instruction. Je sais que Dieu a une pensée. Je m'efforce de la comprendre et j'essaye de la transmettre à mes frères. C'est sûr qu'il y a moins de surprises hein, le dimanche matin, vous saviez. Plusieurs m'ont dit bon courage pour ce matin. Mais le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole peut vraiment agir au fond de nos cœurs par la compréhension. Alors on arrive au verset 34 et 35. Que comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire de quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Inutile de vous dire que ce ne sont pas les versets préférés des chrétiens et des chrétiennes de notre temps. Pourquoi une telle parole ? Il semble, d'après le verset 35, que des femmes perturbaient les réunions de l'Église par des questions qui interrompaient l'enseignant. Leurs interventions intempestives provoquaient le désordre, ne servaient pas à l'édification et faisaient, d'une certaine manière, honte ou embarrasser leur mari. Et Paul, il sait que l'ordre dans les rencontres est capital pour l'édification de l'Église. Et donc, il veut faire cesser définitivement ce désordre à Corinthe. Et donc, il renvoie aussi, du même coup, les maris à leur responsabilité d'enseigner leur famille. Que retenir de cela pour notre Église? Ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ devrait être sa soumission les uns aux autres pour l'intérêt de l'Église et des croyants qui viennent, des croyants et des incroyants qui viennent au milieu de nous. Si les incroyants viennent et ils trouvent une attitude égoïste où chacun cherche son intérêt, s'il y a du désordre, alors ils repartiront confortés dans leur manière de vivre. Si en plus ils n'ont rien compris à ce qui a été partagé, ils vont repartir comme ils sont venus. Par contre, s'ils trouvent l'amour qui met ses dons au service des autres, s'ils trouvent l'harmonie et une soumission les uns aux autres, s'ils entendent le message de l'Évangile clairement expliqué, ils seront alors convaincus du besoin qu'ils ont aussi de connaître Christ, qui a produit ces changements-là dans nos cœurs. L'organisation de la vie de l'Église vise à ce que chacun puisse être édifié et enseigné. Nos rencontres sont préparées. Peut-être vous débarquez le dimanche et puis vous avez l'impression qu'il y en a un qui s'est mis au piano et un autre aux percussions et les autres au chant. Non, non. Il y a des gens qui ont travaillé toute la semaine pour choisir des chants, pour choisir des cantiques, des lectures bibliques. Le texte biblique a été étudié, travaillé. Et tout ça dans la prière. Tout ça dans la dépendance du Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Tout ça pour que l'Église soit édifiée. Tout ça pour que chacun comprenne la parole, la reçoive dans les meilleures conditions possibles, et puis que leur vie change. Il y a des ministères qui sont très visibles, mais il y a aussi tout un tas de ministères plus discrets qui visent la même chose. Par exemple, pourquoi accueille-t-on les tout-petits dès 10 heures avec une équipe qui prend soin des enfants? Mais c'est précisément pour l'édification, pour que les parents puissent être édifiés ensemble dans toute la célébration, qu'ils profitent de la communion fraternelle, qu'ils profitent de la louange, des prières, l'écoute de la parole, sans être distraits ou perturbés par leurs enfants. Pourquoi avons-nous des techniciens au son, à la vidéo? Sinon, pour que chacun puisse entendre, que chacun puisse voir, que chacun puisse être dans les meilleures conditions possibles pour écouter la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a une équipe d'accueil? Sinon, pour que chacun puisse connaître, découvrir, entendre la parole dans les meilleures conditions. L'ordre et l'harmonie servent vraiment à l'édification de l'Église. Dernière pensée. L'édification s'opère aussi dans l'humilité. On voit ça dans les versets 36 à 40. Les Corinthiens, avec tous leurs dons, se considéraient sages, plus avancés que les autres, pouvant donner des leçons aux autres. Et dans son orgueil et son arrogance, l'Église de Corinthe veut établir ses propres normes, décider elle-même ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Elle agit comme si elle était la détentrice de la vérité. C'est comme si Paul leur dit « Vous vous prenez pour le centre du monde hein, » quand il dit verset 36 « Est-ce de chez vous que la parole est sortie ? La parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce que à vous seul qu'elle est parvenue ?» Bien sûr que non. C'est très sarcastique ici. C'est comme s'il leur disait « Si vous n'avez pas rédigé l'Écriture, obéissez-y. » Et si vous n'êtes pas les seuls à avoir reçu la parole de Dieu, soumettez-vous à elle, comme les chrétiens sont tenus de le faire partout ailleurs. En fait, il leur dit, vous n'êtes pas exceptionnels. Vous êtes en fait comme les autres. Pour les orgueilleux, c'est la chose la plus dure à entendre. Ah bon, je suis comme les autres. Je pensais quand même... Non. T'es comme les autres. Ah ouais, d'accord. Pensez pas avoir besoin des autres. Pensez avoir tout compris mieux que les autres. Ça me rappelle les paroles de Job à l'égard de ses amis qui pensent avoir tout compris de la vie et de la situation de Job dans sa souffrance. À un moment, Job leur dit « On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. Et qu'avec vous, doit mourir la sagesse. Vous êtes l'incarnation de la sagesse. » Les Corinthiens se prenaient pour plus sages qu'ils ne l'étaient, plus importants qu'ils ne l'étaient, plus doués qu'ils ne l'étaient. Et je pense que quand on agit comme ça, on n'arrive pas à élever nos frères. L'édification, elle nécessite que l'on s'abaisse pour élever l'autre, pour porter l'autre dans ses difficultés, pour expliquer à l'autre, et peut-être réexpliquer à nouveau, et reprendre à nouveau encore le temps de réexpliquer. Et ça, c'est une manière de se mettre au service de ses frères. Si nous voulons vraiment édifier nos frères avec les dons que le Seigneur nous a accordés, nous devons le faire humblement. Nous devons nous abaisser. Une preuve de l'immaturité des Corinthiens, hein, qui est dénoncée au verset 20 par la bouche de l'apôtre Paul, c'est leur manque d'amour et d'intérêt pour les autres. Ils n'ont d'intérêt que pour eux-mêmes. Ce qui les préoccupe, c'est ce qu'on pense d'eux. Mais ici, c'est exactement une attitude enfantine. Paul dit, non, si tu es un homme, si tu prends, voilà, édifie l'autre, élève l'autre. Sois attentif, sois responsable pour l'autre. Notre Seigneur, il n'a pas cherché ce qui lui profitait. Mais il a cherché ce qui profitait à ceux qu'il était venu sauver. Nous voulons une église spirituelle, n'est-ce pas ? Capable de grandir en nombre et en foi. On a besoin de regarder à Jésus-Christ, au modèle de Christ. S'il y avait des dons, ils habitaient dans toute leur plénitude dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est Christ qui doit être l'inspirateur pour chacune de nos vies, pour servir les autres. Regardons à Christ. Lui, il s'est abaissé plus que quiconque pour élever et bâtir son Église. Non pour son propre renom, non pas pour sa propre gloire, mais pour partager sa gloire, pour nous faire connaître la gloire éternelle. Paul achève ainsi cette section de la lettre des Corinthiens, cette section 12 à 14, qui porte sur les dons spirituels. La semaine prochaine, on va débuter un chapitre extraordinaire sur la résurrection. Au chapitre 12, il avait montré que les dons servaient l'unité de l'Église. Les dons sont donnés pour animer d'un même esprit et former un même corps. Au chapitre 13, il nous a montré que sans amour, notre pratique des dons est vaine. Enfin, dans le chapitre 14, nous venons de voir que tout est pour l'édification, pour la croissance de l'Église, pour la maturité de nos frères et sœurs dans la foi. Voilà les vérités que j'aimerais que nous retenions pour l'exercice de nos dons. Qu'ils soient pour l'unité, qu'ils soient faits par amour et pour, en vue de l'édification des frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est la vérité. Tu l'as inspirée, Seigneur, pour qu'on puisse nous en saisir, pour qu'on puisse la comprendre, la méditer, pour qu'elle transforme nos cœurs par la foi que nous y portons, pour que nous puissions ressentir un amour vibrant pour toi, pour nos frères et sœurs, pour ton Église, pour le monde qui se perd. et pour que nous agissions, Seigneur, en conséquence. On te prie pour que tu secours notre Église dans la compréhension qu'elle peut avoir des Écritures. Que chacun de tes enfants soit stimulé dans la compréhension de ta parole. Que notre foi se saisisse de ces vérités. Que notre amour grandisse, Seigneur, pour ta personne. Merci, Seigneur, de le faire. Merci de développer encore notre Église, de la faire grandir en foi et puis aussi en nombre. Nous voulons nous attendre à toi pour que le monde apprenne, ceux qui nous visitent apprennent à te connaître au travers de ce qu'ils peuvent voir de nous et de ce qu'ils peuvent entendre de ta parole. Par Jésus-Christ. Amen.